Pass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
So, so, glosso, so, da.
Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aigo et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagnon, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selom Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir le Togo, merci de votre fidélité sur Radio Canal K et bienvenue dans Fenêtre sur l'Afrique. L'émission est également synchronisée sur nos radios partenaires FM Liberté, Radio d'Enigma et Radio Avolité, la voix de la résistance du peuple togolais. Eh bien, depuis plus de 3 mois, le pouvoir de Faure Gnassingbé vacille sous une pression populaire. C'est d'ailleurs l'actualité ces derniers temps au Togo ainsi que dans la diaspora togolaise. La grave crise que traverse le pays inquiète également la communauté internationale qui propose un dialogue pour une sortie de crise. Ce dialogue est-il vraiment la panacée à la crise politique? À mes auditeurs, merci de votre fidélité et pour en parler, nous accueillons 2 invités en ligne depuis Lomé et la région parisienne ici en France. La crise sociopolitique au Togo est à un tournant décisif. En attendant un dialogue annoncé par le pouvoir, des tractations pour asseoir un climat d'apaisement favorable à des discussions franches et sincères se poursuivent. En guise de solution, l'on parle beaucoup plus d'une transition politique qui devrait être dirigée par un élément neutre. Des noms circulent à ce propos. Quelle analyse faire de la situation, du dialogue annoncé, de certaines déclarations? Qu'attendre de l'armée togolaise et que dire du travail de la presse? Tous ces sujets ont été au cœur d'une interview accordée par Carlos Komlavi Kitou, directeur de publication du journal indépendant Express et président de patronat de la presse togolaise PPT, à notre correspondant permanent au Togo, Rodrigue Aigo. Nous vous proposons de le suivre.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.
Bonsoir fidèles auditeurs et internautes de Radio Canal K, Radio à vous l'été, tous les Togolais de la diaspora, bonsoir à vous. Nous sommes à Wanyomé, l'une des banlieues de la capitale togolaise, où le micro de la radio est tendu au président du patronat de la presse togolaise et directeur de publication du journal indépendant Express, Carlos Ketou. Avec lui, nous allons aborder des sujets d'actualité, notamment la question de dialogue et de transition qui se dit dans les couloirs. Monsieur Carlos Ketou, bonsoir.
Bonsoir Rodrigue, bonsoir la diaspora et bonsoir Canal K et Radio Avolété. Bonsoir à tous les compatriotes togolais qui sont un peu partout dans le monde. On le voit dans les manifestations, on les voit dans les prises de position, on le voit dans l'engagement. Nous disons à tous ceux-là bonsoir.
Alors, vous l'avez évoqué tantôt, Radio à vous l'été. Et justement, c'est une radio qui est lancée pour accompagner la résistance parce qu'à un moment donné, sans langue de bois, on craignait quand même que la hâte soit utilisée pour museler la presse. Aujourd'hui, avec cette radio, est-ce que vous pensez que ça répond aux normes par rapport à la résistance du peuple togolais?
Oui, tout ce qui concourt à faire évoluer la lutte et à pouvoir accéder aux vœux des populations togolaises, de tout le peuple togolais. Le peuple aspire aujourd'hui à la démocratie, à l'alternance et au bien-être des populations. Mais tout ce qui, en matière communicationnelle, en matière d'engagement de la société civile, en matière politique, tout ce qui peut permettre de pouvoir atteindre l'objectif, je crois que c'est bienvenu. Et je ne doute pas que Radio a voulu être avec la lutte que cette radio a prise, avec les différents reportages sur le terrain que cette radio fait, avec la diffusion des informations que cette radio essaie de faire. Je pense qu'elle va contribuer autant que beaucoup d'autres médias qui sont sur le terrain et à l'étranger sur la question de ce qu'on peut appeler la lutte. Vous savez, à des moments donnés, même dans les pays européens, et quand ces pays étaient en difficulté d'accession à la liberté, il y avait eu beaucoup de canons qui ont été utilisés. Et même en France, on se rappelle, il y avait des pamphlets qui étaient écrits, il y avait des tracts qui étaient affichés pour dénoncer la forfaiture. Et aujourd'hui, Radio Avuleté aussi peut contribuer autant que ces grands canons de l'histoire mondiale à faire aboutir la lutte.
Alors, nous allons revenir beaucoup plus sur le rôle de la presse quatrième pouvoir, mais en attendant, la situation de crise qui secoue le Togo semble devenir une priorité sur le continent. Au cours d'une interview chez nos confrères de Radio France Internationale, le président sénégalais Macky Sall a été l'un des rares chefs d'État africains à se prononcer ouvertement en faveur de la fin du règne sans fin. Comment analysez-vous cette prise de position de Macky Sall?
C'est une prise de position qu'on peut appeler une position vérité. Et les églises du Togo, dans leur réaction, avaient été claires sur une certaine question liée à la vérité. La conférence épiscopale, à travers son représentant, avait dit assez clairement que la vérité n'est pas neutre. Ça veut dire que quand vous exprimez votre opinion qui reste dans une logique vraie, vous êtes obligé de prendre position. Une position favorable ou défavorable, en faveur de quelqu'un ou en défaveur de quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé avec Macky Sall. Il n'a pas été le premier à le dire. Vous rappelez, le ministre gambien des Affaires étrangères n'était pas passé du dos de la cuillère. Il a dit assez clairement que Faure Gnassingbé n'a qu'à démissionner. Bon, on a eu dans les couloirs diplomatiques un certain maquillage de cette sortie du ministre gambien des Affaires étrangères. Et on sait que la Gambie est une terre qui est plus ou moins intégrée au Sénégal. Le président sénégalais, depuis très longtemps, s'est dit que les États africains devaient pouvoir renouer avec ce qu'on appelle la démocratie, l'alternance. Il est venu au pouvoir dans un contexte où la société civile a beaucoup contribué pour qu'il puisse avoir raison, d'Abdoulaye Wade, qui à un moment donné refusait de quitter le pouvoir. Et aujourd'hui, il est bien placé pour comprendre le peuple togolais dans ses revendications, et les revendications qui vont dans le sens d'une certaine libération, d'un certain affranchissement. Et vous savez que les relations entre le Togo et le Sénégal en matière diplomatique ne sont pas au beau fixe, parce que le président sénégalais a toujours eu à tutoyer le régime togolais sur les dérives, sur les failles démocratiques et sur l'excès en matière de gestion du pouvoir. Abdoulaye Wade, à l'époque, avait succédé à un président, et à Abdou Diouf, on se rappelle, dans des conditions plus ou moins démocratiques, mais il a voulu conserver le pouvoir, mais cela n'a pas pu marcher, et il est parti grâce à la mobilisation des organisations de la société civile et des partis politiques. Et aujourd'hui, c'est une leçon que Macky Sall doit donner au reste de l'Afrique et notamment au Togo, qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle une curiosité nationale et internationale, mais aussi le caillou dans la chaussure au niveau de la sous-région. Et il faudrait faire tout pour que chacun puisse prendre position pour juguler une crise qui devient un peu trop longue. Et nous souhaiterions que d'autres États, en toute franchise, d'autres chefs d'État de la sous-région puissent exprimer cette position dans la même optique que le président sénégalais Macky Sall.
Alors, en allant un peu plus loin, quand il dit le territoire sénégalais serait une base arrière et que l'armée sénégalaise serait une force pour combattre ces dinosaures entre griffes sur le continent, est-ce que c'est un message qui va au-delà de Fort Niassingbé?
Vous vous rappelez, en Gambie, on a été assez clair avec Yaya Jamé à l'époque, il y avait le Sénégal qui avait apprêté les forces armées pour aller déloger Yaya Jamé. Et l'armée sénégalaise avait contribué plus ou moins pour essayer de mettre fin au règne dictatorial de l'ex-président gambien Yaya Jamé. Et s'il faille arriver à une force militaire pour déloger Fort Niassingbé, qui aujourd'hui reste appuyé et soutenu par son armée, je pense qu'il y a le principe de la non-ingérence dans les affaires, mais dans un contexte sous-régional où on a besoin d'assainir les États afin que la sous-région puisse avoir une certaine crédibilité démocratique. Si l'occasion le permet, il faudrait que les assauts soient lancés dans ce sens pour essayer de résorber la résistance d'une certaine garde prétorienne que constitue l'armée togolaise et qui ne veut pas lâcher prise pour permettre au peuple d'aspirer à la démocratie et à l'alternance. Donc Macky Sall, quand il parle, c'est un homme d'État, c'est un chef d'État, et c'est un homme de réseau, il sait de quoi il parle, et on attend de voir les appuis et les différents soutiens que ce monsieur, ce président peut avoir pour permettre au Togo, dans les conditions légales et démocratiques, dans le respect des accords sous-régionaux et internationaux, de pouvoir permettre au peuple togolais d'être libéré du joug de la dictature d'Niassimbé.
Est-ce qu'aujourd'hui, puisque c'est justement au moment où Fort Niassingbé est élu chef d'État en exercice de la CEDEAO, que la crise togolaise a connu un regain de tension, est-ce que ça a été un piège tendu à Fort en lui donnant ce fauteuil de la CEDEAO?
Non, c'est que le pouvoir togolais a toujours pensé qu'il était crédible. Vous savez, il a toujours donné dans des attitudes de maquillage de la vérité. Et elle a toujours donné dans des simulacres d'État démocratique. Donc, on a eu, dans une certaine naïveté, à courir après ses titres et ses postes. Vous vous rappelez que à travers les différentes rencontres, les conventions, les conférences, les sommets, l'État togolais se bat pour avoir non seulement un poste pour le chef de l'État comme il a eu pour la CEDEAO, mais aussi à accueillir les sommets et les conférences internationales pour faire croire que le Togo jouit d'une certaine stabilité. Mais c'est oublié qu'il y avait dans la foulée un certain Tipi Achadam qui avait une certaine carrure pour remobiliser le peuple autour des idéaux, autour des intérêts qui concourent à cette aspiration à la démocratie. C'est oublié qu'il y avait un peuple qui n'était pas dans la même gamme de maquillage et de la vérité en matière démocratique que le pouvoir essaie de l'exhiber tant sur le plan national qu'international. Alors, ce n'est pas un piège, mais le pouvoir était dans une sorte de paranoïa en pensant que il jouissait d'une très bonne crédibilité et qu'il pouvait tout s'autoriser et tout faire. Et à un moment donné, le pouvoir a pensé qu'en accédant à la présidence en exercice de la CEDEAO, cela pourrait taire les velléités nationales en matière de revendication, en matière de contestation. Et c'est l'effet contraire qui finalement est arrivé. Et le chef de l'État togolais, Fort Niassingbé, est pris dans le piège de l'incapacité d'être juge et arbitre. Parce que dans ce genre de situation, c'est le président en exercice qui envoie des émissaires ou qui lui-même se déplace vers les États pour leur demander, allez, il faut répondre aux aspirations du peuple, il faut répondre aux préoccupations, il faut répondre aux revendications et il faut baliser le terrain pour que la démocratie s'asseye. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est acculé et accablé par son peuple. En tant que président en exercice, c'est une situation très difficile qu'ils doivent gérer. Mais c'est aussi très bien qu'on puisse aujourd'hui, à travers cette situation, voir ce qu'on appelle les fesses. Vous savez que c'est quand le vent souffle que les fesses de la poule se font voir. Donc, cela a permis de pouvoir voir la nature de la gouvernance démocratique dont jouit le Togo, exhibé de façon hypocrite par le pouvoir togolais.
Alors, au-delà du silence de Faure Gnassingbé, au-delà des déclarations de ses émissaires, notamment ses conseillers sur les médias internationaux, les regards se tournent beaucoup plus aujourd'hui vers un dialogue annoncé qui se précise, si on peut le dire ainsi, surtout avec les récentes rencontres parisiennes. Comment analysez-vous les propos du président guinéen Alpha Condé qui estime qu'il revient aux Togolais de décider de la sortie de crise?
Oui, cette intervention du président Alpha Condé de la Guinée, président en exercice de l'Union africaine, est très riche de sens. Et c'est un message fort que Alpha Condé est en train de délivrer au peuple togolais. Pour dire que si vous ne prenez pas vos responsabilités, si vous ne maintenez pas la pression pour vous départir du règne sans fin de Gnassingbé, nous ne serons pas là pour venir déloger un président à votre place. Donc, le président Alpha Condé a compris que la rue a été toujours une méthode de pression qui marche. Et face à une situation où le peuple est déterminé et essaie de mettre la pression suffisante sur le pouvoir par la rue, on finit par céder, on finit par trouver des solutions, on finit par obtenir. Alpha Condé, le président de la Guinée, il est venu au pouvoir également en tant que opposant. Le président Alpha Condé a été opposant à Alassana Conté, qui a aussi régné longtemps à la tête de la Guinée. Et il sait en quoi le combat contre une dictature doit aboutir si on reste mobilisé et si on s'approprie la lutte en tant que peuple. Et c'est cette appropriation qui permet à l'opinion internationale, à la communauté internationale, de pouvoir réagir promptement en appelant à la responsabilité des dirigeants. Mais si le peuple reste dans son petit coin et attend que ce soit la communauté internationale, la France, l'Union africaine, la CEDEAO, qui viennent le sortir de cette situation, je crois qu'on continuera par baliser la voie à la dictature et sans fin de Gnassingbé.
Alors, retour à la condition de 1992, vote de la diaspora, départ de Faure Gnassingbé, le tout semble se résumer aujourd'hui à une proposition de transition. Des noms circulent. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous aussi écouté des noms? Qu'en pensez-vous?
Oui, vous savez, nous sommes dans la presse, nous sommes dans les médias et on fait beaucoup attention aux rumeurs qui circulent parce que formellement, on n'a pas encore eu une sortie d'un médiateur ou d'un parti politique ou du pouvoir pour prononcer une certaine personnalité comme pouvoir assurer une certaine transition. Mais au Togo et dans la diaspora, il y a des personnalités qui se sont illustrées dans une prise de responsabilité face à des situations. Vous vous rappelez, en 2005, quand le pouvoir préparait le chaos après la mort de Gnassingbé Yadema, qui avait connu une sécession à la hussarde de Faure Gnassingbé, au moment où on préparait des élections sanglantes qui finalement ont donné raison à celui qui les avait prévenus. Je veux parler de François Akilaboko, l'ancien ministre de l'Intérieur, mais il a joué un rôle assez responsable. Il a interpellé le pouvoir d'Abbas Bonfo à l'époque et l'opinion internationale qui avait danger. Il y avait péril en la demeure. Il n'a pas été écouté, il a été renvoyé en exil et après son départ, les élections ont été sanglantes, 500 morts. Donc, cette personnalité a su tirer son épingle du jeu face à une situation chaotique qui s'annonçait. Bon, il a été reçu à Londres par le président ghanéen et tout ça. Et on pense que c'est dans un contexte de consultation qu'il a été rencontré pour donner son avis sur la question. Il peut être une solution. On ne sait jamais. Il y a d'autres personnalités. Je ne veux pas trop m'engager dans la prononciation de certains noms pour les disqualifier ou bien pour donner l'impression comme si on prend position. Mais je pense que il y a des personnes qui jouissent d'une certaine crédibilité et d'une certaine neutralité, tant dans le pays que dans la diaspora, qui ont une carrière internationale assez éloquente, qui peuvent facilement conduire cette transition. Mais si le pouvoir avait la bonne foi était sincère, on pourrait même choisir quelqu'un
que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, qui jouit d'une certaine neutralité pour assumer cette transition. Mais ce qui est très important et ce qui est à retenir est que le Togo a connu des dialogues, le Togo a connu des accords, le Togo a connu des rencontres avec pouvoir opposition. Mais à quoi cela a abouti? Cela n'a abouti à rien. C'est pourquoi je suis d'accord avec le président du PNP, Tipi Achadam, qui dit que si vous leur laissez le temps, ils trouveront les moyens de rester. Parce que quand ils sont en difficulté, ils jouent les anges. Ils sont là, et non, on va dialoguer, on va trouver une solution à la crise, on va appeler l'opposition, l'opposition, nous sommes tous des Togolais, on va se comprendre entre nous. Mais quand l'opposition va s'engager dans une négociation autour d'une table et qu'il va falloir signer un accord pour le respecter, c'est là que vous verrez le pouvoir dans ses manipulations, dans ses volte-face. Donc il faut faire très attention à cette situation et l'opposition togolaise devrait être ferme en prononçant la transition qui devrait être dirigée par une personne neutre à partir de la signature de l'accord sur la transition et permettre à cette personne qui va assumer cette transition de ne pas se représenter en 2020 et mettre Faure Gnassingbé hors de jeu. C'est ce qui peut résoudre la crise togolaise. Sinon, toute autre solution intermédiaire, prolongation de mandat et tout ça là, ne serait que des artifices et la crise demeurera. Et le pouvoir cinquantenaire continuera à régner, à régenter le Togo.
Alors, vous l'avez évoqué en 2005, on a vu que l'armée a été un soutien de taille à Faure Gnassingbé, puisque c'est à partir de l'allégeance faite à Faure Gnassingbé que la succession du père au fils a été assurée. Et récemment, il était à Témédia pour s'adresser donc aux forces armées togolaises, des déclarations qui continuent d'être dénoncées par l'opinion nationale, même si sur le plan international, il n'y a pas encore de réaction. Aujourd'hui, la question de l'armée, selon plusieurs observateurs, reste un élément important qui inquiéterait quant à l'aboutissement de cette transition qui se suscite dans les couloirs. Peut-on espérer voir une armée togolaise se comporter comme son collègue du Zimbabwe?
Oui, rien n'est exclu. Et Robert Mugabe n'a jamais pensé avoir une armée qui se retournera contre lui et qui lui demandera de partir. Et à un moment donné, vous avez vu au Burkina Faso, Blaise Compaoré ne s'est jamais attendu à une armée qui lui demandera de quitter le pouvoir. Et pas plus loin, en Gambie, c'est l'armée qui, à un moment donné, a pris ses responsabilités. Mais toutes les armées du monde sont dirigées par des hommes, des êtres humains, qui ont un esprit de patriotisme, qui ont une certaine intelligence, qui ont une certaine formation, qui ont aussi des humeurs et des sentiments. Donc, on peut toujours s'attendre que l'armée togolaise aussi prenne ses responsabilités quand elle verra que nous sommes finalement manipulés par une seule personne, Faure Gnassingbé, qui reste là à nous narguer, et nous, l'armée, nous les officiers supérieurs et aussi le peuple togolais, qui n'honore pas les engagements, alors que nous avons eu confiance en cette personne, en l'ayant investi, en lui faisant allégeance, après avoir servi pendant 38 ans son père. Donc, nous sommes finalement des marionnettes d'une famille depuis 50 ans, mais à un moment donné, l'armée comprendra qu'elle a un rôle à jouer. C'est pourquoi, à tout moment, moi, je me dis qu'il faut éviter de jeter l'anathème sur l'armée et de pouvoir compter sur le soutien de l'armée, pas pour s'ingérer dans la politique, mais pour créer une certaine stabilité dans le pays. Mais il y a eu une transition très douce au Zimbabwe. Il n'y a pas eu fusion du sang. Le président, à un moment donné, il avait subi tellement de pression qu'il ne pouvait pas résister encore. Alors, il a cédé, il a signé sa démission. Il est parti. Et quand il est parti, bon, on peut dire que la constitution a été rétablie parce que c'est le vice-président qu'on avait entre-temps viré, qui est revenu et qui prend le pouvoir. Je veux parler de Emmerson Mnangagwa. Donc, vous voyez que dans tous les pays du monde, l'armée est dirigée par des êtres humains qui ont des sentiments, qui ont des humeurs, qui ont une certaine intelligence à canaliser les situations pour que le peuple, pour que le pays puisse être sauvé, pour que le pays puisse être stabilisé. Et l'armée togolaise ne fera pas exception.
Parlant, je dirais, de l'armée togolaise, est-ce qu'on peut, sur un retour, considérer les propos de Macky Sall comme un avertissement à toute armée qui s'opposerait à l'avènement de la démocratie dans tous les États sur le continent africain.
Oui, je n'ai pas la prétention de prendre les paroles du président sénégalais Macky Sall comme des paroles d'évangile ou bien comme le Zorro qui vient mettre de l'ordre, parce que le Sénégal est un État et souverain, le Togo est un État souverain, nul ne peut s'ingérer dans les affaires intérieures des autres, mais c'est un message qu'il est en train de porter à l'endroit peut-être des autres chefs d'État, des autres nations, des autres pays, de la communauté internationale, que il y a une menace sur la situation politique du Togo. Le Sénégal fait partie d'une sous-région qui a besoin d'être stabilisée. On a déjà connu la guerre civile en Côte d'Ivoire qui a déstabilisé toute la sous-région. On a connu le Mali et on ne va pas créer un nouveau foyer de tension au Togo par la témérité et la résistance d'une seule personnalité, d'un seul homme qui aurait pour soutien une certaine garde prétorienne. C'est cet avertissement, plus ou moins, que Macky Sall est en train de lancer en filigrane à l'endroit de l'armée. Mais je ne vois pas Macky Sall, un beau matin, engager l'armée sénégalaise pour venir attaquer le Togo et demander à l'armée togolaise de faire partir Florian Simbé. Mais je pense que le peuple, comme l'a dit Alpha Condé, doit assumer sa responsabilité. Et tant que nous continuerons à voir un peuple qui marche, un peuple qui manifeste, un peuple, que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit au niveau de la diaspora, il faut voir la mobilisation dans tous les pays d'Europe, des États-Unis et de l'Asie, même de l'Australie. Quand vous voyez toutes ces mobilisations-là, sachez que le peuple est debout, le peuple a une certaine prise de position et veut finalement finir avec une certaine situation. Et les réactions et les contributions des chefs d'État, des pays étrangers et de la communauté internationale ne seront que la cerise sur le gâteau.
Alors, depuis le début de cette crise qui a connu un regain de tension le 19 août 2017, la presse togolaise fait son travail avec surtout cette question de bipolarisation qui ne dit pas son nom. Comment vous, en tant que patron de presse et également président d'une organisation patronale de presse, analysez l'apport du quatrième pouvoir?
Le quatrième pouvoir dans tous les pays a toujours beaucoup apporté. Au moment où la presse n'existait pas, dans les années 1700-1800, ben il y avait déjà des bribes dans les pays occidentaux de presse où on passait l'information par des pamphlets, comme je l'avais dit, par des tracts. Ça veut dire que le message véhiculé par un certain canal écrit ou audiovisuel permet de sensibiliser la population et d'amener les populations à une certaine intégrité. Vous savez, la presse a son rôle, son triptyque qui est informer, former et divertir. Et la presse, c'est le quatrième pouvoir. C'est lui qui contrôle peut-être plus ou moins les autres pouvoirs, parce que la presse est capable de faire monter un pouvoir ou de faire descendre le même pouvoir. Donc la presse joue son rôle d'une façon plus ou moins très 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 délicate, parce que vous l'avez dit, il y a une bipolarisation, il y a un pouvoir qui est en difficulté, qui essaie de communiquer à travers une presse, une certaine presse qui reste à son service, nous l'avons constaté. Et à côté, il y a ce qu'on peut appeler, je n'ai pas envie de prononcer ce mot, la presse de combat, où des journalistes sont déterminés à accompagner la lutte du peuple, parce que le bon journaliste est celui qui est proche des victimes. Et aujourd'hui au Togo, les victimes, c'est les populations qui subissent une certaine dictature, un pouvoir à vie, un pouvoir qui ne veut pas céder, qui ne veut pas créer des conditions pour que le peuple puisse vivre dans un bien-être démocratique. Donc la presse a plus ou moins joué ce rôle, même si le pouvoir se bat pour combattre cette presse qui est jugée comme presse critique proche de l'opposition et au détriment d'une certaine presse qui est dans de très bonnes mains et qui vit et qui jouit des privilèges du pouvoir en place. Donc nous, l'appel que nous pouvons lancer, c'est d'appeler la presse à la responsabilité et à l'objectivité et à travailler pour l'enracinement d'un véritable état de droit et de démocratie. Tous les pays aspirent à cela. Donc la presse doit jouer son rôle sans parti pris. Et je le dis, la vérité n'est pas neutre. Quand on ne prend pas parti, je pense qu'on doit dire la vérité. Et quand on dit la vérité, c'est dit, on doit dire les choses telles qu'elles se passent. Et quelle est la situation au Togo aujourd'hui? C'est un peuple qui se soulève contre un régime qui a duré 50 ans. Et la presse ne doit pas rester dans des situations ambiguës ou dans une certaine ambiguïté, mais la presse doit être responsable et dire les choses telles qu'elles sont. Donc la presse contribue très bien à l'enracinement de cette démocratie. Et nous pensons que demain, on saluera le rôle du quatrième pouvoir dans ce combat qui permet de créer des conditions d'une véritable alternance démocratique au Togo.
Alors, si on peut l'appeler mouvement populaire ou soulèvement populaire, il ne s'arrête pas que sur la terre togolaise ou sur la terre de nos aïeux, mais au-delà des frontières, comme on l'avait dit déjà en début d'entretien, ces mouvements s'intensifient. Nous parlons là de la diaspora togolaise. Alors, quel regard portez-vous sur ces fils et filles de la nation qui vivent à l'extérieur? On semble dire quelque part que non, nous en avons assez et il faut en finir.
Je tire chapeau à ce peuple de l'étranger, à ces Togolais de l'étranger, de la diaspora, parce que la plupart de ces Togolais sont partis parce que ils en avaient assez des conditions de vie au Togo. Il y a certains qui sont envoyés en exil tout simplement parce que ils avaient une position critique vis-à-vis du pouvoir. Il y avait certains qui, parce qu'ils avaient une appartenance pour l'opposition, ils sont renvoyés en exil. Il y a certains qui sont partis parce que les conditions économiques ne permettaient pas de continuer à vivre dans un pays comme ceci. Et c'est cette mobilisation qui a su créer une certaine visibilité de la lutte du peuple togolais à l'étranger. À un moment donné, vous savez, le pouvoir togolais semblait communiquer comme si rien ne se passait au Togo. La situation était normale, c'était juste quelques petites manifestations qui vont s'estomper dans les jours à venir. Donc il y a pas mal à la demeure, il n'y a pas de difficulté. C'est ce que le pouvoir semblait faire comprendre à ses partenaires de l'étranger. Mais quand Paris s'est soulevé, quand la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, et les États-Unis dans tous ces États, même l'Australie, même la Corée, quand tous ces pays se sont engagés dans des manifestations pour démontrer à l'opinion internationale qu'il y avait un problème au Togo, aujourd'hui, je ne sais pas dans quel coin du monde où on ne sait pas que le Togo est un pays où il y a un régime qui bat un record de 50 ans, qui refuse de partir, où le pouvoir est entre les mains d'une seule famille. Je ne sais pas dans quel coin du monde. Donc la diaspora, non seulement depuis très longtemps, a joué ce rôle pour permettre au Togo d'aboutir à l'alternance en envoyant de l'argent et pour la lutte, en essayant de créer un peu des conditions pour que les familles qui sont sous le joug de la souffrance puissent survivre. À part tout cela, je crois que la diaspora porte un flambeau fort, le flambeau de la lutte. Et cela galvanise encore les populations au pays qui sont dans la logique de la manifestation et de la pression. Et la pression de la diaspora est très importante. Et c'est dans cette diaspora, je ne m'en doute, qu'on pourra trouver des acteurs et des personnalités qui pourront jouer un rôle important pour cette transition togolaise. Cette transition est très importante parce que c'est elle qui va ouvrir les vannes d'une certaine situation améliorée de démocratie. Vous ne pouvez pas imaginer comment, malgré le fait que Robert Mugabe ait été remplacé par son vice-président qui était un homme du Sérail, mais vous ne pouvez pas imaginer comment le peuple zimbabwe est soulagé par le départ de Robert Mugabe. Au Togo, on doit déjà commencer par réclamer ou bien obtenir le départ de Faure Gnassingbé, et après l'incertitude pourra être gérée, parce que au Zimbabwe les gens disent que bon, après Robert Mugabe c'est l'incertitude, mais cette incertitude vaut mieux que la présence de Robert Mugabe. Donc le Togo peut connaître le départ de Faure Gnassingbé et tomber dans l'incertitude, mais cette incertitude sans Faure Gnassingbé vaudrait mieux que un Faure Gnassingbé qui soit toujours au pouvoir, ou une famille Gnassingbé qui continue de régenter le pays. Voilà un peu l'analyse que je peux faire de cette diaspora à qui je tire chapeau. Je connais la plupart dans beaucoup de pays où je suis allé, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou bien dans les pays africains. Et je sais que cette diaspora est sincère, est engagée et permettra d'aboutir à l'alternance démocratique au Togo.
Alors, peut-être pour apporter un plus, il faut rappeler que par rapport à cette question d'incertitude, Nathanaël Olympio, président par intérim du Parti des Togolais, sur une télévision internationale, a laissé entendre que c'est gérable, c'est-à-dire qu'il y a des ressources pour gérer cette question d'incertitude. Pour finir, Monsieur Carlos Ketou, quel appel avez-vous aujourd'hui, vous en tant que citoyen togolais, à lancer aux acteurs pour un dénouement heureux de cette crise qui n'a que trop duré?
Oui, comme l'a si bien dit René Descartes, le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Et au Togo, nous sommes dans une logique de bon sens. Que tous les acteurs, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, que ce soit au niveau de la population, des peuples qui manifestent, que chacun se mette dans une situation de bon sens de penser que le bien-être ne profitera pas seulement qu'à des individus, mais profitera également à tous ceux qui peuvent être des citoyens togolais. Et si on crée des conditions pour que le Togo s'affranchisse du joug de la dictature, c'est la nation togolaise qui gagne, c'est le peuple togolais qui gagne. Et je pense que chacun a qu'à rester dans ce bon sens et dans la résistance face à l'oppresseur pour que les choses changent.
Alors, monsieur Carlos Komlavi Ketaou, président du patronat de la presse togolaise, directeur de publication de l'hebdomadaire indépendant Express, merci pour votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie et tous mes encouragements à Canal K et à Radio Avouleté et à tout son personnel, à tous ses acteurs qui ne cessent de se battre pour porter haut les voix des populations opprimées. Félicitations et bonne chance à vous.
Merci beaucoup à vous aussi pour la disponibilité, comme nous venons de le dire. C'était à l'instant, chers fidèles auditeurs et internautes togolais de la diaspora, Carlos Komlavi Ketaou, président du patronat de la presse togolaise et directeur de publication de l'hebdomadaire indépendant Express. Avec lui, nous avons fait le tour d'horizon de l'actualité togolaise, beaucoup plus accentué aujourd'hui sur la question de dialogue et de transition, sans oublier le rôle de la diaspora et de la presse quatrième pouvoir. Bien de choses et merci de nous avoir suivis. Bonne suite.
Togo mio mititelo, mititelo, mititelo. Togo mio mititelo, mititelo, mititelo. E nukeye mile oya, miabe viola vadui somme. E tokeye mile oya de, miabe vionchi mile oero. Mititelo, mititelo. Mititelo, mititelo, ameke we mule se gome wa, tant pis pour eux. Ameke we gbe yo ma se gome wa de, tant pis pour eux. Togo mio mititelo, mititelo, mititelo. Togo mio mititelo, mititelo, mititelo.
Eh bien, mes auditeurs, merci de votre fidélité sur Radio Deniwan, FM Liberté, Radio Avleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Depuis plus de 3 mois, le pouvoir de Fonia Simbé vacille sous une pression populaire. C'est d'ailleurs l'actualité ces derniers temps au Togo ainsi que dans la diaspora togolaise. La grave crise que traverse le pays inquiète également la communauté internationale qui propose un dialogue pour une sortie de crise. Ce dialogue est-il vraiment la panacée à la crise politique? Pour en parler, nous accueillons également un membre de la diaspora togolaise, Jonas Komlansi-Ladin, économiste et auteur de plusieurs ouvrages, dont Togo, démocratie impossible, justement avec un point d'interrogation à la fin. Il est en ligne depuis la région parisienne. Jonas Komlansi-Ladin, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis la France.
Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs de Radio Avouleté et Canal K. Bonsoir à tous nos auditeurs de par le monde, spécialement à nos compatriotes qui nous suivent depuis le Togo.
Eh bien Jonas Komlansi-Ladin, merci de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne. Écoutez, il y a un moment que vous n'avez plus pris la parole. Et même les événements politiques du Togo, votre pays, ne vous ont pas fait sortir de votre diète médiatique. Jonas Komlansi-Ladin, quelles en sont les raisons?
Depuis le début des manifestations et de l'intensification à partir du mois d'août, des voix plus légitimes et plus autorisées que la mienne ont porté les messages, ont expliqué les attentes, les objectifs de ces manifestations, ont prodigué un certain nombre de conseils aux premiers responsables et ont donné des indications, des informations tout à fait utiles, des consignes. J'ai estimé que ces voix ont suffisamment porté ces messages et qu'il n'était pas utile que moi, je parle aussi, que je pour dire exactement la même chose que les gens disent, ou pour dire que je soutiens ce que les gens disent, ce n'est pas ça qui est utile. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas les événements ou que je ne les soutienne pas. Je les suis, je suis comme tous les Togolais qui sont épris de la justice, de la démocratie, qui se battent pour un progrès démocratique. Je suis les événements, j'interagis avec un certain nombre de personnes, y compris parmi les responsables de ces manifestations. J'ai même des discussions avec des personnes qui sont en dehors de ces manifestations et qui peuvent un jour ou l'autre venir apporter leur contribution décisive à ces manifestations, parce que c'est important que le mouvement aille jusqu'au bout. De manière générale, je ne prends la parole publiquement que lorsque je suis convaincu que ce que je vais dire peut avoir une utilité, peut être une contribution utile. Donc aujourd'hui, c'est ce que je souhaite faire et je vous remercie de m'en donner l'opportunité, parce que je pense que nous arrivons à un moment de la lutte où on a besoin de nourrir le débat des réflexions qui peuvent amener à construire une stratégie gagnante. C'est pour cela que je prends maintenant la parole. Et je vous remercie de m'en donner l'opportunité encore une fois.
Eh bien, on peut comprendre ces raisons. Maintenant, allons directement au but de notre entretien de ce soir. Eh bien, jeunesse écartelée entre les exigences de leur base et la pression de la communauté internationale qui les presse à aller rapidement à une négociation, les leaders de l'opposition ne sont pas dans une position confortable malgré qu'ils aient réussi à établir un rapport de force favorable. Faut-ils et doivent-ils négocier avec le pouvoir, puisque trois leaders ont déjà rencontré à Paris le président guinéen Alpha Condé?
Je pense que personne ne peut obliger aujourd'hui l'opposition à dialoguer, l'opposition togolaise à dialoguer avec le pouvoir. Personne ne peut blâmer les leaders de l'opposition s'ils refusent aujourd'hui d'aller discuter avec le pouvoir. Tant il est vrai que le pouvoir a toujours utilisé le dialogue comme un prétexte pour gagner du temps. Et on ne peut pas dire que par le passé, le pouvoir nous est habitué à une grande disponibilité à mettre en œuvre les mesures qui sortent des dialogues. On ne sait pas si le gouvernement est de bonne foi. On n'a jamais eu la preuve de sa bonne foi. Donc c'est tout à fait normal que l'opposition refuse aujourd'hui d'aller au dialogue. Personne ne peut blâmer l'opposition pour cela. D'ailleurs, les attentes de la majorité de notre peuple qui manifeste sont très claires. C'est le retour à l'esprit de la Constitution de 1992, le renforcement des institutions démocratiques de ce fait, et l'organisation d'élections qui permettent aujourd'hui d'entrer dans une ère d'une véritable démocratie. Ça, c'est tout à fait clair. Je ne pense pas qu'on ait besoin forcément encore d'un dialogue pour arriver à cela. Si le gouvernement voulait vraiment aller vers les aspirations du peuple, de son peuple, il peut tout à fait mettre en œuvre ces mesures sans passer par un nouveau dialogue, puisqu'on a déjà parlé en long et en large de ces mesures, qu'il y a eu des commissions qui ont planché sur les réformes, que ces commissions ont rendu des rapports dans lesquels les mesures sont précises. À quoi servirait un dialogue aujourd'hui? L'opposition est en droit de se poser cette question-là. Après tout, évidemment, nous souhaitons, nous sommes un certain nombre à souhaiter que les choses se passent tranquillement dans notre pays, que la paix civile soit préservée, que l'unité nationale soit préservée. Il appartient à l'opposition, librement, sans aucune pression, sans céder à aucune pression, d'où qu'elle vienne. Elle appartient aux dirigeants, aux leaders de l'opposition, de se déterminer en fonction de la situation, de l'analyse qu'ils font de la situation, de se déterminer à aller ou non au dialogue. Il n'appartient à personne de le leur imposer. Je me dis tout simplement qu'ils doivent se déterminer assez vite, après réflexion, pour voir s'il y a opportunité d'aller au dialogue avec le pouvoir ou pas.
Eh bien, si ces opposants ou bien ces leaders de l'opposition de cette nouvelle coalition optaient pour les négociations, Jonas Iliadin, comment éviter, hein, une fois encore, que les résolutions n'aillent rejoindre les nombreuses autres conclues lors des autres discussions antérieures?
Eh bien, si l'opposition décide d'aller au dialogue, il est important qu'elle trouve une stratégie qui lui permette d'être efficace et surtout qui lui évite de perdre du temps et de vérifier assez rapidement si, cette fois-ci, le pouvoir est de bonne foi. Pour ça, il peut y avoir plusieurs approches, plusieurs solutions. Moi, j'en propose une, celle que j'appelle le dialogue séquentiel ou le dialogue en palier ou par palier. Le dialogue par palier, c'est quoi? C'est qu'il faut éclater l'ensemble de des discussions en petites sessions courtes autour d'un sujet. Et à chaque fois qu'on discute et qu'on épuise l'ordre du jour d'une session et qu'on a acté un accord, eh bien, on suspend le dialogue et le pouvoir, le gouvernement, est tenu de mettre en œuvre les accords ou l'accord auquel on est parvenu lors de cette première session. Et une fois que le gouvernement a mis en œuvre cet accord, on ouvre une nouvelle session et on fait comme ça progressivement. Cette approche permettra très vite à tout le monde de se rendre compte si le gouvernement veut bien mettre en place les mesures qui sont issues du dialogue. Comme ça, on évite l'effet de tunnel qui fait qu'on rentre dans les discussions qui se prolongent avec des rebondissements, des fantaisies des uns et des autres. Et à un moment donné, on ne sait plus où on en est, et puis on claque la porte, et puis on revient, et puis ceci. Et le gouvernement utilise ça pour épuiser l'opposition. Donc pour moi, la clé aujourd'hui, c'est de mettre en place un dialogue progressif, séquentiel, par palier. Discussion après discussion, on vérifie la bonne foi du gouvernement. Il peut y avoir d'autres méthodes, mais moi, la seule clé que je vois aujourd'hui, c'est d'obliger, comme ça, à avoir des sprints intermédiaires et avoir des points d'étape rapides. Si à la fin de la première session, on se rend compte que le gouvernement n'a aucune envie de mettre en œuvre les accords et que c'est encore une fois un subterfuge pour gagner du temps, pour sortir de la situation compliquée dans laquelle il semble se trouver aujourd'hui, eh bien, en ce moment-là, on sort du dialogue et puis on amplifie les mouvements et on va jusqu'au bout. Il faut que, à un moment donné, le gouvernement comprenne que il n'y a plus d'échappatoire. Nous voulons la fin du cinéma, nous voulons la fin de la dictature au Togo, la fin de l'exception togolaise. Nous sommes déterminés aujourd'hui à changer les choses. Ça doit changer et ça va changer.
Eh bien, justement, Jonas Komansiliadin, dans cette crise interminable au Togo, les positions sont tranchées, le pouvoir et son opposition s'observent en chien de faïence. Votre concept d'œcuménisme politique est-il applicable dans ces conditions? Pensez-vous que les protagonistes pourront travailler ensemble?
Oui, j'ai bien conscience que ce concept d'œcuménisme politique que j'ai proposé dès 2014 est de plus en plus difficile à mettre en œuvre dans notre pays. Parce que de crise en crise, de renoncement provocateur en renoncement provocateur, eh bien, le pouvoir a créé une situation de méfiance et de défiance qui fait que finalement les acteurs de la classe politique ne se font plus confiance et n'ont plus envie de se parler ou d'aller sur quelque projet que ce soit. L'opposition, par exemple, est persuadée qu'à chaque fois le pouvoir fera du dilatoire et ne sera pas sincère jusqu'au bout, et que tout ce que le pouvoir cherche quand il veut travailler avec l'opposition, c'est de trouver le moyen de prolonger la dictature, le moyen de prolonger le mandat de Faure et de prolonger donc cette dynastie républicaine ou cette république dynastique plutôt, qui sévit dans notre pays et qui fait du Togo une exception sous-régionale. J'ai conscience que c'est de plus en plus difficile, très très difficile de travailler ensemble. Pour autant, nous sommes des fils, des filles et des fils d'un même pays. Son avenir est notre devoir son bien-être est notre devoir. Nos parents, nos grands-parents, nos aïeux nous l'ont légué pour que nous le bâtissions, nous le rendions beau et que nous le transmettions meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants. Alors, est-ce qu'on va se dire que pendant que nous sommes en mission ou par rapport à cette mission, on va quand même oublier de travailler ensemble et de faire progresser les choses? C'est compliqué. Donc moi, je pense que malgré tout, malgré toutes les difficultés qui existent et qui sont objectives, malgré les réticences, malgré les méfiances qui sont légitimes de la part de l'opposition, il faut que nous comprenions que il n'y a pas autre alternative aujourd'hui que de travailler ensemble si vous n'en passez pas une voie pacifique. Le pouvoir a une grande responsabilité dans cette situation. Quand le président Faure dit que les violences qui émaillent les manifestations sont de la responsabilité de ceux qui organisent ces manifestations-là, je pense que ce n'est pas une conclusion qui est recevable. Il faut se demander pourquoi il y a de plus en plus de violences dans le pays. C'est parce que nous avons accumulé des frustrations, des révoltes depuis au moins 2005, où on a eu une irruption dans la vie politique au moment où tout le monde espérait une ouverture. Au moins à partir de 2006, les Togolais auraient dû avoir une meilleure condition de vie. Nous aurions dû saisir l'occasion des accords politiques globaux, généraux, pour pouvoir organiser une nouvelle société, construire, bâtir un nouveau pacte social. À partir de l'APG, les renoncements, les provocations, les mépris, les propos d'arrogance auxquels le gouvernement nous a habitués, ou les silences de cynisme auxquels le gouvernement nous a habitués, ont progressivement entamé la confiance, le petit capital de confiance qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, les rancœurs se sont renforcées. Les Togolais sont, dans leur immense majorité, révoltés. Il n'y a que ceux qui, la minorité qui profite du système pour s'enrichir, qui voit que tout va bien. L'immense majorité des Togolais et qui se débrouille dans une forme de misère, de désespérance. Cette immense majorité-là aujourd'hui est profondément révoltée. Et quand une personne est révoltée et qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'horizon, eh bien, on n'a pas besoin de lui dire ou de lui donner des consignes pour faire ci ou faire ça, pour qu'il commette l'irréparable. Les gens sont désespérés, ils savent que assis ou debout, ils vont mourir. Qu'ils tentent ou pas, ils peuvent mourir. Et donc, ils préfèrent tenter quelque chose pour avoir au moins une espérance de changer quelque chose. Et si par la suite il meurt ou qu'il trouve la mort ou que ça, de toute façon, ça ne change rien à la donne. Donc les Togolais sont déterminés. Il appartient au gouvernement, il appartient aux premières autorités du pays d'assumer la situation qu'ils ont créée et d'avoir un sursaut d'orgueil. Parce que le Togo est un bien commun et ils porteront la responsabilité d'une déflagration généralisée dans notre pays. Ils en prendront la responsabilité devant des siècles et des siècles. Donc c'est à eux de se remobiliser aujourd'hui, de siffler la fin des hostilités et dans une forme de responsabilité de ramener tous les Togolais autour d'une table et de mettre tout en œuvre pour que enfin le Togo sorte de cet attarnement politique qui s'éternise. Nous avons aussi, comme nos voisins béninois, burkinabés, ghanéens, le droit de bâtir une société démocratique, de construire une république qui marche, où on vient au pouvoir par les urnes, on y reste, on fait ce qu'on a promis au peuple de faire, on finit son travail, on finit son mandat, et on s'en va, on laisse le pays tranquille, on laisse une autre personne venir essayer. Où on est dans une société civilisée qui protège les droits des citoyens. Et il est quand même temps que le Togo aussi sorte de cela et qu'on puisse rejoindre le Conseil des Nations. Cette exception géographique, politique et historique n'honore personne. Donc, malgré les difficultés qui sont réelles, je crois qu'il y a lieu aujourd'hui que tout le monde entende raison, surtout le pouvoir, que nos amis du pouvoir redescendent sur terre. Quand j'entends Bawara et compagnie parler, parfois je me demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi des Togolais peuvent être aussi à ce point hors contexte, hors sol? Il faut qu'on revienne sur terre et qu'on travaille comme les enfants de la même famille, de la même patrie, pour le bien-être commun, pour l'accomplissement de la mission que nous avons reçue de nos aïeux, pour transmettre un Togo meilleur à nos enfants.
Jean Siliadin, tout le monde le sait, hein, l'enjeu de cette crise est la représentation de Fonia Sibé au scrutin présidentiel de 2020 et même, comme le réclament certains, la fin également de son mandat actuel. Alors, comment résoudre un tel problème, Jean Siliadin?
Bien, tout dépendra de comment les choses évoluent dans les prochains jours. Si le dialogue est maintenu et que les deux parties s'entendent pour faire des discussions, pour avoir des discussions, et qu'on voit que le gouvernement est de bonne foi, eh bien, il faut aller progressivement vers l'ouverture d'une transition. C'est pour cela que je parle de dialogue progressif. C'est-à-dire que si on ouvre les discussions et que les premières mesures qu'on acte, c'est-à-dire le retour à l'esprit de la Constitution de 1992, sont mises en œuvre, en ce moment-là, il faut aller à une deuxième étape qui est l'ouverture d'une période de transition. Et pour moi, cette période de transition doit aller jusqu'en 2020, ce qui permet donc au chef de l'État actuel d'aller jusqu'au bout de son mandat. Sauf que à la fin de cette transition, l'élection présidentielle qui interviendrait à la fin de cette période de transition aurait pour règle que personne de ceux qui ont dirigé la transition ne pourrait se porter candidat à cette élection-là. En ce moment, le président sortant, pour avoir présidé la transition, ne peut plus se présenter comme candidat. Et donc, il aura ainsi été jusqu'au bout de son mandat. Il ne pourra pas se présenter, non pas parce que la Constitution aura été rétroactive et que ça dérogerait à un principe fondamental de la loi qui dit que la loi ne dispose que pour l'avenir, mais ne sera pas candidat tout simplement parce que les règles de la transition seraient de telle nature que personne ne se présentera après avoir dirigé la transition. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si discussion il y a, voilà comment on peut résoudre ce problème-là. Après, je le dis, c'est pas une provocation. Si les choses se passent bien, 2025, s'il faut se croire suffisamment capable de se présenter devant les Togolais et de recueillir leur confiance, il peut revenir. Et on verra si dans un cadre électoral assaini, avec des règles électorales transparentes et équitables, et une élection qui est organisée par un gouvernement responsable, s'il est assez populaire pour remporter le suffrage universel. Voilà. Maintenant, si au bout de quelques jours, dans les jours à venir, on se rend compte que le gouvernement n'est pas disposé à ouvrir des discussions sans tabou qui abordent ces sujets-là de l'alternance en 2020 ou de l'avancée démocratique, en ce moment-là, eh bien, la revendication initiale des soulèvements, des manifestations, doit être maintenue, conduite jusqu'au bout. Soit à la fin, on arrivera à dégager fort et en ce moment-là, on rentrera dans une nouvelle phase. Soit à la fin, on n'y arrive pas et on constatera qu'il est plus fort que tout le monde et qu'on se soumettra. Mais en aucun cas, il faut aujourd'hui laisser les choses en l'état. Donc, s'il y a discussion, on va dans les discussions. L'objectif des discussions, c'est qu'en 2020, il y ait des élections sans Fonia Sibe comme candidat. Ce n'est pas qu'on se focalise sur lui, mais c'est lui qui endosse aujourd'hui la responsabilité. Qui s'est précipité pour s'emparer du pouvoir au mépris de toute constitution en 2005? C'est bien lui. Qu'est-ce qui a bénéficié des retombées du massacre de 800 personnes, 800 de nos concitoyens? C'est bien lui. Qu'est-ce qui a foulé au pied les accords qu'on a signés en 2006 pour solder cela? C'est bien lui. Eh bien, à un moment donné, on ne peut pas avoir d'un côté le bénéfice de tout ce qui ne va pas et ne pas accepter d'être la personne désignée pour dégager. À un moment donné, il faut être conséquent. Pour moi, soit Faure veut être président de la République à partir de maintenant, il se comporte en président de la République jusqu'en 2020 et après il laisse la place, ou il veut se considérer à la tête d'une association entre guillemets de malfaiteurs, ce à quoi ressemble de plus en plus le gouvernement actuel, eh bien, libre à lui de faire le choix, mais il sera traité comme tel. Pour le moment, moi, je considère qu'il doit se comporter en président de la République et on doit le respecter pour ça, pour lui laisser l'occasion d'aller jusqu'au bout du mandat en cours. Mais si c'est pour nous dire que parce que les rapports de force sont en ma faveur, je fais ce que je veux du pays, eh bien, il sera traité comme tel. J'ai écrit il y a quelques moments que le patronyme n'est pas un casier judiciaire, mais il ne doit pas être non plus un passe-droit. C'est pas parce que Force s'appelle Nyasimbe qu'il faut lui réserver un traitement particulier, qu'il faut pas le respecter ou qu'il faut tout de suite le considérer comme un pestiféré. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On peut s'appeler Nyasimbe et être quelqu'un de très bien, avoir le droit de participer comme tous les Togolais à la vie publique. Donc le patronyme n'est pas un casier judiciaire. Il faut pas juger Force sur son nom. Mais en même temps, il faut pas que lui-même il utilise ce nom-là ou le simple fait qu'il est le fils de l'ancien président pour faire ce qu'il veut au Togo et tout le temps. Voilà, il n'est pas au-dessus, il n'est pas plus togolais qu'un autre, il n'est pas un togolais exceptionnel, il n'est pas un citoyen à part. Il est un togolais comme tout le monde et nous avons exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs en tant que citoyen togolais. À un moment donné, il faut qu'il comprenne. Et puis aujourd'hui, il faut aussi qu'il comprenne qu'il y a une nouvelle génération d'hommes politiques qui monte en puissance et qui est derrière l'opposition. Et on n'est pas là pour rigoler. Voilà la question. C'est, on rentre dans une discussion sincère, ça se passe bien pour tout le monde. On ne veut pas rentrer dans une discussion sincère. Le peuple togolais est pacifique, mais il faut que toute la communauté internationale qui se mobilise à gauche et à droite, là, comprenne une chose. C'est de la responsabilité du gouvernement que les choses se passent bien. Et il faut le dire au gouvernement. C'est pas à l'opposition qu'il faut le dire. Et si le gouvernement ne veut pas entendre raison, à un moment donné, eh bien, ce qui adviendra, adviendra. Voilà.
Depuis le début de cette crise en août dernier, disons 3 et 19 août, et date à laquelle les manifestations se sont amplifiées sur presque toute l'étendue du territoire, pour ne pas dire dans plusieurs villes du Togo, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, s'est abstenu de parler aux Togolais, hormis quelques interventions devant son parti et l'armée. Est-ce une faute politique de l'ancien Ladin? Et comment comprendre cette attitude du chef de l'État, Faure Gnassingbé?
Si c'était une faute politique, ce serait déjà grave. Mais je crois que c'est plus grave encore que cela. C'est en fait du mépris pour le peuple. Et du cynisme. J'ai beau analyser, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, là, il va parler. À un moment donné, on dit, oh, peut-être que là, on arrive à un moment où il ne peut pas ne pas parler. Tout le monde a vu. Il y a eu les violences à Mango, d'abord à Sokodé, et puis à Mango, et à aucun moment, il n'a parlé. Ça s'est répété à Sokodé, les gens sont sortis massivement dans la rue. Tous les médias indépendants du monde entier ont repris ça en expliquant que là vraiment le Togo il y a des manifestations et tout cela, rien. Ça n'est pas une faute politique. Une faute politique ce serait par exemple de considérer que ah il n'a pas bien apprécié la situation et ça s'est passé une fois où voilà. Là ça s'est répété et ça s'est maintenu à plusieurs reprises. Il n'a pas parlé, ça ne peut pas être une faute politique. Pour un président qui est en place depuis 15 ans, qui est entouré de conseillers, de tout à loi, dont certains sont des anciens premiers ministres et compagnie, ou c'est anciens ministres ou anciens patrons de grandes institutions internationales, il ne peut pas y avoir d'erreur d'appréciation. Il a bien compris la situation. Mais c'est un mépris. Pourquoi? Parce que Faure sait que son pouvoir ne dérive pas du peuple et que c'est pas le peuple souverain qui l'a mis là. Il sait qui l'a mis là et c'est à qui il doit d'être président de la République. Donc il n'a pas de compte à rendre au peuple. C'est aussi simple que ça. Ça n'est en aucun cas une faute politique. Hein. Quand Monsieur Lorenzo dit que son président ne parle pas beaucoup, c'est abscon comme raisonnement. Je suis désolé de le dire crûment, mais on ne demande pas au président de la République de parler beaucoup. on ne lui demande pas de parler tout le temps. Il est question de savoir pourquoi, lorsque des Togolais meurent, lorsqu'il y a une violence inouïe, lorsque des milliers, de centaines de milliers de Togolais descendent dans toutes les villes du pays, pourquoi le président de la République ne s'adresse pas, ne parle pas? C'est tout. S'il ne parle pas en ce moment-là, lorsque les Togolais meurent, à quel moment il va parler? S'il ne parle pas quand les Togolais réclament des réformes constitutionnelles, à quel moment il va parler? Au moment des vœux pour Noël? Alors, c'est pas ça la question. On ne lui demande pas de parler tout le temps. Personne ne lui demande cela. Personne ne lui reproche de ne pas parler tout le temps ou de ne pas parler beaucoup. On lui demande tout juste, tout simplement, en tant que premier magistrat du pays, lorsque ça ne va pas, lorsque les Togolais sont dans la rue, qu'ils crient leur révolte, qu'ils se mettent en bataille rangée contre les forces de l'ordre, que les forces de l'ordre commettent des bavures manifestes qui circulent sur les réseaux sociaux, on lui demande tout simplement de parler. Il ne peut pas dire qu'il ne regarde pas les réseaux sociaux, puisque lui-même dit qu'il regarde les réseaux sociaux faire de lui un homme simple, un dictateur sanguinaire. Donc il est au courant de ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit être simple que de se murer dans un silence quand le pays brûle. C'est du cynisme. Hein? Un homme simple, il n'est pas cynique. Voilà. Moi, je ne pense pas que ce soit une faute politique. Il faut nommer un chat un chat. Depuis toujours, j'ai toujours fait la part des choses en ayant un respect pour l'institution, pour le président de la République, et en évitant et en demandant à chaque fois que les gens aient de la mesure dans leurs propos. Mais là, nous avons franchi un cap. Et il faut que ceux qui pensent que nous sommes des agneaux dociles comprennent qu'ils sont allés trop loin et qu'il faut revenir à la raison s'ils veulent toujours avoir notre respect. À un moment donné, il faut que chacun assume ses actes. Ce n'est pas une faute politique, le fait que Faure ne parle pas. C'est du cynisme.
Le pouvoir de Fonia Singbe semble miser sur l'essoufflement des manifestations qui, eux, comptent sur leur résistance. Enfin, connaisseur de la situation politique du pays du Nord-Siladin, si vous deviez vous risquer à un pronostic, qui serait le vainqueur à ce jeu alors?
Le pronostic en situation politique, c'est toujours compliqué, mais je comprends votre question, Sylvain. Je pense que le peuple souverain a toujours le dernier mot. Toujours. Quand on regarde l'histoire, ça peut prendre du temps, mais le peuple a toujours le dernier mot. Et j'ai écrit il n'y a pas longtemps dans mon livre que vous avez cité, et qu'il n'y a pas d'adversaire aussi puissant soit-il qu'il ne soit pas possible de vaincre. Donc, aujourd'hui, je crois que les rapports de force sont tels que nous parviendrons à ce que nous voulons si nous restons déterminés, si nous restons vigilants, si nous travaillons avec méthode, si nous travaillons avec clairvoyance et lucidité. Le principal, c'est que nous puissions y arriver dans la paix, dans l'unité nationale, dans la concorde, pour que le Togo reste un et indivisible, et que les Togolais continuent à avoir envie, à avoir la joie, la possibilité de travailler, de vivre et de travailler ensemble. C'est ça le plus important. Mais le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple souverain a toujours le dernier mot. Et il en a toujours été ainsi partout. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas comme ça chez nous au Togo.
Eh bien, parlons un peu de cette actualité au niveau panafricain. Cette semaine, Robert Mugabe, lâché par l'armée, a été contraint à la démission. 3 ans plus tôt, l'armée du Burkina Faso donnait l'exemple en ne réprimant pas le peuple révolté par la volonté de Blaise Compaoré de s'éterniser au pouvoir. Alors, les forces armées togolaises ne semblent pas inspirées et par ces exemples-là. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Alors, dans votre livre, Togo, démocratie impossible, je rappelle que Togo, démocratie impossible, là, il y a un point d'interrogation, c'est une interrogation que vous vous posez. Alors, vous dites, Jonas Siladin, qu'on a souvent parlé de l'armée sans suffisamment lui parler. Alors, 3 ans après, a-t-on pu parler à l'armée, Jonas? Comment parle-t-on à l'armée togolaise? C'est la grande question.
Décidément, je vois que vous êtes allé décortiquer mon livre et le contenu de ce livre qui est paru en 2014. C'est tout à votre honneur. Je pense que c'est le travail du journaliste que d'aller chercher tout ce qui a été produit, toutes les analyses qui ont été faites sur la situation et aider les concitoyens, les protagonistes à comprendre, à mieux comprendre ce qui se passe, à les éclairer. Je pense que c'est une très bonne chose. Je m'en réjouis. Oui, effectivement. Je pense que on a commencé à parler à l'armée et on l'a fait suffisamment. C'est pas encore terminé, mais l'opposition a compris en tous les cas qu'il faut parler à l'armée et ça se voit. Vous avez vu les dernières manifestations avec les roses et il y a eu de belles images où la population a offert des roses aux forces de l'ordre, aux membres des forces de l'ordre. Et on a bien vu que de leur réaction, ils sont de cœur avec nous. Ils sont dans une institution, ils sont soumis à une hiérarchie, à une discipline qui fait que ils ne peuvent pas prendre ces roses ou réagir. Mais de tout cœur, je pense que l'immense majorité des forces de l'ordre commence à comprendre que cette situation n'arrange personne. Ou en tout cas n'arrange que la minorité qu'on a créée, qu'on entretient, qui peut s'offrir des appartements sur les plus grandes avenues du monde, qui peut offrir à leur progéniture, à sa progéniture, pardon, cette minorité-là, à sa progéniture, des écoles, des formations dans des grandes écoles, et qui vit à l'abri de tout besoin, dans un confort inouï, pendant que l'immense majorité, force de l'ordre ou civil, croupit dans la misère. Je ne sais pas si tous les militaires aujourd'hui ont la possibilité d'envoyer leurs enfants à Stanford, Yale ou à Georgetown. Je ne pense pas que tous les militaires, toutes les forces de l'ordre aujourd'hui sont capables, à la fin de leur vie, de léguer à leurs enfants, à leur famille, un toit et des conditions de vie décentes. Voilà. Donc, or, le travail ou le combat de l'opposition et de tous ceux qui sont en lutte pour la démocratie, c'est justement cela, permettre d'avoir une société dans laquelle chacun puisse travailler sereinement à préparer son avenir sur la base de des mêmes chances, hein, sur la base de mêmes chances et de l'équité, de la justice économique et sociale. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Et donc, quand nous faisons ce combat-là, c'est complètement injuste que les militaires, qui sont au même titre concernés que nous, soient là pour nous barrer la route ou pour nous violenter. Et donc, l'opposition a commencé à faire ce travail. J'ai vu l'adresse du professeur Olu à l'armée, l'adresse de Kafui à Diamagbo à l'armée. Le commandant Oliyama l'a fait avant. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui pour parler à l'armée, pour justement expliquer que nous sommes dans une démarche pacifiste. Nous sommes dans une démarche de paix et que nous ne cherchons pas à créer un désordre dans le pays. Et que même au-delà de ça, si nous arrivons à imposer une avancée démocratique, une ouverture démocratique, nous sommes des hommes et des femmes responsables, pétris de l'amour pour notre patrie, de notre pays, et que nous sommes capables de gérer le pays dans la concorde, dans la paix, et de le conduire sereinement vers son bonheur, vers son avenir. Donc, nous ne sommes pas moins méritants que ceux qui sont là aujourd'hui et qui foutent la pagaille. Nous sommes, au contraire, plus responsables, plus soucieux du bien-être et de la justice sociale. Voilà le combat. Mais bon, je pense que l'opposition a compris et a fait beaucoup d'efforts pour parler. Il faut continuer à le faire. Il y a des fissures. Il y a des fissures. On verra comment ça va évoluer. Rien n'est interdit. Les jeux sont ouverts. Il faut continuer à parler à l'armée.
Jonas Siliadin, je rappelle à nos fidèles auditeurs et auditrices, dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, sur Radio Canal K et ses radios partenaires FM Liberté, Radio Denigma et Radio Avolité. La voix de la résistance du peuple togolais, que vous êtes économiste et auteur de plusieurs ouvrages, et d'ailleurs, et dont le dernier est un collectif sur les banques en Afrique. Justement, quelles peuvent être les conséquences des manifestations sur l'économie? Alors là, on voit qu'il y a plusieurs manifestations au Togo et un peu partout en Afrique également. Alors plus précisément, l'économie togolaise est-elle en mesure d'encaisser le choc que lui infligent les manifestations depuis le mois d'août?
Aucune économie au monde ne peut supporter sans conséquence des manifestations généralisées qui durent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. encore moins celle du Togo. Vous savez que le budget 2017 table sur une augmentation des recettes de 26%. Quand on voit les manifestations qui se généralisent dans le pays, il est difficile que les recettes de l'État puissent augmenter de 26%. Donc l'hypothèse même de l'équilibre budgétaire est compromise dès lors que les manifestations se poursuivent. Première observation. Deuxième observation, il faut savoir que l'année 2015 a été une année très fragile parce que nous avons eu à organiser les élections au Togo. Donc cela a mis à rude épreuve les finances publiques et donc le budget de l'État. L'année 2016 a permis un retour à un premier niveau de consolidation et normalement 2017 devait permettre de renforcer cela et de permettre au Togo de réduire ses déficits et d'améliorer ses performances. Malheureusement, on ne va pas y arriver. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement, à un moment donné, a voulu interdire les manifestations en semaine, parce qu'il a compris que les manifestations avaient un impact sérieux sur l'activité économique et que cela pouvait compromettre les hypothèses, les atteintes des objectifs budgétaires que l'État s'est assigné. Mais, encore une fois, ça c'est de la responsabilité du gouvernement. Notre pays se caractérise par quoi ? Par une dépendance des activités de commerce international, parce que le Togo est un corridor vers l'Interland, donc tout ce qui est lié aux activités portuaires et aéroportuaires qui permettent donc de générer du transit et donc des recettes liées à cela, et le Togo est fortement dépendant de cela. Donc l'activité d'insécurité ou les troubles et l'insécurité que cela puisse générer, le sentiment d'insécurité que cela puisse générer auprès des opérateurs économiques, va ralentir et donc faire décroître le volume de ces activités-là par rapport à ce qui était prévu. Première chose. Deuxième chose, notre pays dépend, notre économie dépend essentiellement aussi de l'informel. Donc quand il y a des manifestations, eh bien, très peu de gens ouvrent leurs boutiques, les activités ne se déroulent pas comme ça devait se dérouler normalement, donc il y a une baisse de productivité et donc baisse donc de revenus globalement au niveau de l'économie, et donc par effet de ricochet, moins de recettes pour l'État et donc une croissance moindre par rapport à ce qu'on peut attendre. Cela est dangereux pour le Togo aujourd'hui, parce que le gouvernement avait prévu de lancer un certain nombre de plans, notamment de plans national de développement à partir de 2018, avec pour objectif d'atteindre ou de ramener le déficit public et le déficit budgétaire donc dans un premier temps à 3% horizon 2019, parce que ça c'est l'objectif communautaire, donc le critère au sein de l'UMOA. Et véritablement 2, 3, 4 mois, et si ça continue, surtout quand on arrive à la fin de l'année où c'est une période de fête, où la plupart des commerçants, des artisans, des opérateurs économiques réalisent un certain nombre de leur volume d'affaires, eh bien ça va devenir compliqué pour l'économie du Togo, bien évidemment. Dans tous les cas, l'objectif de croissance des dépenses de 26% ne sera pas atteint. Les 860 milliards de recettes prévues, de recettes budgétaires, hein, hors de recettes trésorerie, ne seront pas atteints, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc le budget ne s'équilibrera pas. Le Togo aura forcément des difficultés à boucler son budget, ce qui est pas une très bonne nouvelle pour le gouvernement qui essaye de raccrocher les wagons, et donc la croissance qui était prévue à 5,2 pour l'année 2017 selon les dernières prévisions doit être revue légèrement à la baisse à mon avis.
Le pouvoir togolais se bat farouchement pour conserver une mainmise sur le nord du pays et par le siège des villes comme Sokolé, Mango, Bafilo, et justement et l'interdiction pure et simple des manifestations de l'opposition dans une ville comme Kara est supposée et acquise à sa cause. Alors, cette partie du pays n'est-elle pas finalement son tendon d'Achille? Et Jonas Iliadin.
Vous avez raison. Depuis toujours, la stratégie du pouvoir, c'est d'opposer le nord et le sud du Togo. généralement pour faire peur à nos compatriotes de la partie septentrionale du pays. On leur dit, écoutez, vous considérez que nous, on n'est pas bien, mais pour le moment, c'est nous, vos frères, qui sommes au pouvoir. Vous verrez si vous laissez les gens du Sud prendre le pouvoir, vous verrez ce qu'ils vont vous faire. Vous vous souvenez de la période d'après l'indépendance avec les Ablats de Soja et tout. Ces gens-là, ils n'ont aucune considération pour nous. Donc, attention, même si vous n'êtes pas content de ce qu'on fait, nous sommes encore le moindre mal, hein. Et on réussissait comme ça, de façon réelle, dans un premier temps, à mobiliser les gens autour du pouvoir, et puis par la suite, par les artifices de découpage électoraux, et par le gonflement artificiel de la liste électorale, on a justifié de façon artificielle l'adhésion qui n'est plus aussi systématique de la partie septentrionale au projet politique proposé par le pouvoir de Faure Gnassingbé. Donc, effectivement, entre le décalage qu'il y a entre cette réalité factice fabriquée depuis 2005 et la réalité, on va dire, de terrain, la réalité authentique du terrain, fait qu'aujourd'hui, le pouvoir est un peu déboussolé. Parce que les populations disent, pensent, veulent exprimer quelque chose. Ils ne sont pas d'accord. Ils pensent comme tout le monde, c'est tous les Togolais qui sont concernés. Vous savez, la misère ne connaît pas de la géographie. La difficulté économique ne va pas s'arrêter à Takbamé en se disant, bon, finalement, ici, ça va, je peux être, tous les gens du Sud peuvent être dans la misère, mais les gens du Nord, ils vont être bien parce que, voilà. Non. Tant qu'on ne travaille pas pour le pays et qu'on ne fait pas la promotion du développement pour le grand nombre d'entre nous, tant qu'on ne fait pas le partage de la richesse de façon appropriée et qu'on est dans un régime de prédation systématique, la misère se ressent partout. Et cette misère nourrit la révolte. Autre chose, tous les Togolais en ont marre d'avoir une seule famille qui régente le pays depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Donc c'est tout à fait normal que la révolte se généralise. Et on ne peut pas continuer indéfiniment à maintenir la population du nord, du pays, dans une forme de chantage politique ou de verrouillage. C'est ce que je disais au début de notre entretien, Sylvain. Je disais que quand une femme est désespérée, n'a plus d'horizon, eh bien, il est prêt ou elle est prête à tout pour s'en sortir, quitte à sacrifier sa vie pour cela. Et la clé de notre problème se trouve là. Le gouvernement doit comprendre qu'il a épuisé, pardon, tous ses subterfuges, qu'il a épuisé tous ses artifices aujourd'hui pour fuir en avant. Il a épuisé toutes ses cartes. Maintenant, il n'a qu'une seule option, c'est de s'inscrire enfin dans la sincérité, dans la vérité des faits, et de laisser les choses se produire naturellement, comme elles doivent se produire. Essayer encore de construire une contre-vérité, une contre-réalité, ce serait le subterfuge de trop. Et c'est ça qui va allumer la poudrière. Donc c'est pour ça qu'il faut que le gouvernement fasse essentiellement attention à la situation actuelle. La crise que nous connaissons aujourd'hui ressemble peut-être aux différentes crises que nous avons connues, mais elle n'est pas du tout la même dans son essence profonde. Ce n'est pas la même crise. Et ça, il faut que les gens puissent avoir l'intelligence de comprendre cette particularité très tôt, afin qu'il ne soit pas trop tard.
Je lance il y a bien rapidement une dernière question pour vous libérer en ligne depuis la région parisienne. Encore une fois, merci de votre disponibilité. Et là, la diaspora togolaise face à cette crise au Togo n'est pas restée indifférente. Elle a multiplié des manifestations dans beaucoup de pays d'accueil. Vous faites partie de cette diaspora-là. Je lance il y a bien, pensez-vous que les actions de la diaspora togolaise sont à la hauteur de la crise actuelle? Alors, quelle observation faites-vous sur ces activités? Je n'en sais rien.
Alors, souvent je dis que la diaspora, elle est à l'image du Togo, hein, elle est multiforme, elle est traversée par plusieurs courants différents. Il y a des gens qui sont de la diaspora, qui soutiennent le pouvoir en place, qui soutiennent l'immobilisme. Et puis il y a dans la diaspora des gens qui sont neutres, qui ont quitté le Togo parce qu'ils ont connu des difficultés inouïes et qui sont ici et qui ne cherchent qu'une seule chose, avoir la paix, vaquer librement à leur business, s'occuper de ceux dont ils doivent s'occuper et ne plus jamais entendre parler ni de politique ni du Togo ou du Togo, mais seulement par rapport à leur famille. Et puis il y a une partie de la diaspora aussi qui est engagée pour le progrès démocratique. Donc souvent je fais toujours cette précision là pour dire que la diaspora togolaise, ça n'est pas une structure monolithique, monoforme, qui soutient l'opposition ou qui est acquise dans son ensemble à l'opposition. Alors, et pour cette partie-là de la diaspora en lutte pour la démocratie, oui, les manifestations sont à la hauteur. Les gens se sont mobilisés dans toutes les capitales, pratiquement les grandes capitales, en tous les cas, devant les ambassades, devant les institutions comme l'Union européenne, devant le tribunal de la CPI. Et donc, on fait des manifestations à Paris, nous avons marché plusieurs fois à Paris. Et donc, il y a cette présence-là de la diaspora, cette détermination de la diaspora. Vous avez vu sur les plateaux des grandes chaînes, nombreux de nos compatriotes sont allés porter la voix, le message de la manifestation de façon brillante, admirable. Voilà, ils sont allés porter la contradiction aux membres du gouvernement ou aux conseillers du président ou au soutien du NIR. Donc, la diaspora en lutte pour la démocratie a fait et continue d'ailleurs à faire sa part du travail. On peut toujours espérer plus, mais la difficulté, c'est que, comme je le dis, nous sommes à l'étranger. Et quand on est à l'étranger, on a des contraintes encore plus fortes, parce que à la fois nous devons nous occuper de nous-mêmes, mais nous devons nous occuper de nos parents qui sont au pays, parce que le pouvoir les a abandonnés. Vous savez, l'effort de la diaspora représente près de 20% du PIB du Togo par année. Vous voyez, donc il y a aussi ces contraintes là qui limitent tout ce qu'on peut déployer comme action. Mais déjà, avec le peu qu'on a, avec les contraintes que nous avons, je trouve que la diaspora en lutte pour la démocratie a bien réagi et continue à réagir à la hauteur de cela. Il faut s'en féliciter, il faut féliciter toutes les organisations qui militent, qui organisent ces manifestations. C'est pas évident du tout dans nos pays. Il faut les féliciter, il faut les remercier, il faut les encourager, il faut qu'on continue à nous mobiliser, chacun faisant ce qu'il peut faire pour que, quelque part, on connaisse, on comprenne la situation du Togo, qu'il y ait un éclairage sur le Togo. Je peux vous donner une petite histoire rapide, personnelle. Mon directeur est rentré de vacances et il vient me voir, donc c'était début septembre. Il rentre dans mon bureau, il dit, mais Jonas, alors qu'est-ce qui se passe au Togo? Il paraît qu'il y a beaucoup de manifestations et tout. J'avais le sourire parce que il ne connaissait pas le Togo, il ne savait pas ce qui se passait au Togo, mais parce que à un moment donné, je me suis ouvert à lui, je lui expliquais un certain nombre de choses de la situation. Donc, il a mis une alerte qui lui permet d'être au courant de ce qui se passe au Togo. Et donc, voilà. Donc, j'imagine que de proche en proche comme ça, si on arrive à permettre à un grand nombre de personnes de s'ouvrir sur ce qui se passe au Togo, c'est déjà une contribution aussi. Et donc, c'est ce que fait admirablement la diaspora en lutte pour la démocratie et ce dont il faut se féliciter.
Eh bien, Jonas Siliadin, nous n'allons pas finir cet entretien exclusif avec vous sans vous demander votre mot de fin, puisque le Togo traverse une très grave crise. Vous êtes de la diaspora, alors quel est votre mot de fin dans cette émission?
Oui, je voudrais pour terminer remercier, féliciter, envoyer mes encouragements à tous nos compatriotes en lutte pour la démocratie, spécialement au premier responsable de la coalition de l'opposition. Et une fois n'est pas coutume, et c'est normal, faire une mention spéciale à Tipi Achadam, parce que vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est parce qu'il a réussi à mobiliser son parti, ses partisans, que la donne a fondamentalement changé, en ce sens que on ne peut plus aujourd'hui systématiquement parler de sud ou du nord, et que véritablement ça vient conforter tout ce qui avait été fait comme effort et amplifier ce qui avait été fait comme effort par ses prédécesseurs, Jean-Pierre Fabre, Brigitte Adiamagbo, Gilbert Sassou, Odoudia Pévon, Maître Agbouibo et tout cela, qu'il faut féliciter, remercier, encourager, leur dire que leur travail n'est pas vain et que nous sommes là pour les soutenir, nous sommes là pour les accompagner et un jour ou l'autre, nous serons là pour prendre le relais et faire leur fierté et donc les encourager pour cela. Au-delà de ça, je voudrais m'adresser à tous les Togolais parce qu'à chaque fois que je réfléchis à la situation que nous vivons aujourd'hui, il me revient un des couplets de notre hymne national. En tout cas, une partie de ce couplet-là, c'est « Vaincrons ou mourons, mais dans la dignité ». Et plus j'y réfléchis, ça me fait peur, cette phrase, parce que j'ai peur que pour une fois, si on ne fait pas attention, ça risque de se produire de façon prophétique. Et ça risque d'être une prophétie, et que ça ne se réalise. Je souhaite de tout cœur que tout le monde médite cette phrase, vaincons ou mourons, mais dans la dignité, et que chacun se résolve, le gouvernement, l'opposition, tous ceux qui aiment le Togo, pour que dans la réalité, cette phrase devienne, vaincons, vivons dans la dignité.
Eh bien, Jonas Siladé, encore une fois, merci de votre disponibilité.
Et merci pour tout.
Merci et à très bientôt. Bonsoir.
Yeah, I'm a bad word on a joke. Word on a joke. I'm a bad word on a joke. Word on a joke. I'm a fitty word on a joke. Word on a joke. I'm a funny word on a joke. Odo la joy, ame para odo la joy, yeah, fire. Hey, wawe kotole, yena Africa vio dogo vovola. Wawe kotole, yena jupore o male jifafala. Wawe kotole yena democracy gbe baba Africa. Wawe kotole yena jupore o gba kotole nu ha ha me. Odo la joy, ame bara odo la joy. Odo la joy, ame fiti odo la joy. Mela odo la joy, ame fundi odo la joy. Odo la joy. Ame bara bara wodo la joy, asafa. Hey, o fonte gbele fino, bena yo le playera. O fonte gbele gbele nu odo etila, bena yo le jredwe. O poto le divise mi, bena yo le reconcilie mi yela. O fonte gbele fino, bena yo le playe. Mi kwale ke mo kwan ke kemda, fwa o fonte gbele ple hu ye ye la. Wanto be gamelio boa, ahwe ye ye ko fona chuna la. Mi kwale ke mo me chanra, fwa more wo ba poto ba le chuchu. Agote chuchu ye mi je domi, ye mi ma jonane mi apu vide ma. Tokwe kwa me mba nyi mi ato, amere wo ya wo kwere mi asio. Ni wa me noda po funu ade, afibe nya ye be nyina la. Etranjo go jwa de mi asila, e ye ju me vi ame gado pa wola. Ne wo do nyaku ame juro ade, na nya bele kwe mbusula. E tore pe kwen tongare jwa me o, no ma nyi so ya waze bi jan kora kora. E tore pe tongare jwa me o. Yeah, oh, no, no, hey, hey, hey.
à mes auditeurs câblés sur le 3xw.canalca.ch et ses radios partenaires FM Liberté, Radio Dénigment, Radio Avulété. Coucou les Tétinta, la voix de la résistance du peuple togolais. Place à votre rubrique et joie, bébé. Merci de nous être fidèles.
Edwa Bagba, enyo wanade le Radio Canal Kaji.
Soso glosso sando, eloé, Afrique peto, onade mulo, soso glosso migra, elozalado.
Edwa Bagba.
Soso glosso migra, elozalado. Bimi la zundo, etotu la zundolo, we d'accord, avion la voe, we d'accord, milagro elo, we d'accord, avion la voe, we d'accord, milagro elo. Soso glosso migbe, elo zalado. Soso glosso migbe, elo zalado. Mimi la zundo, etutu la zundolo. We d'accord, avion la voe. We d'accord, milagro elo. We d'accord, avion la voe.
Edwa Bagba, enyo wanade le Radio Canal Kaji.
We d'accord, milagro elo.
Yo, novino, miawe zonva, radio avoule te di. Coucou les tétenta, obé à voin. Et la noyi, matote gbedeo. Radio à voulété, yéle ni, du quoi bé, titititibé radio. Du quoi bé, nyonobé radio. Mido akbina kanoto de chade, keyo ou le do tomi de radio à voulété di. Novino, togouvi de chade, ameo le gbedi, kudo ameo la royachan. Abola y dinan du quoi. Ou est-il que divorçon ya? Iye gbololo, olie di. Du quoi de sofiambe? Egbi ale ici. Iye, et tu abe gbia. Ami olu kulo joa, olu lase. Wajakbe vintoa, omlese, et tu abe gbio. Du quoi de sofiambe? Iye sokbe la. Amo kwe, amo dogbe, mido baba, amname kokoa. Yo me defana o, ame o jafo kwa, mido babano, ame o dogbea, mido babano. Eye ito govi de siade le biosebe, kaka gemme ye, yula no bololwa diyo, kaka gemme ye, yula doji la kpankone nebe di doduo. Vame dobe a o, mi ma bionyan nenyon, le kemi la bionyak bwe nibe, bo mwa mi a biosebe, kaka gemme ye, Adido ti, ke mi la te so do son li a kweto fo nya singbia, kaka geme adido ti wande, e la do di. Kabo pou geme keye, o so e fiodo, adido di adi le po, fio a gasi a gebe ya mou ya. Geme ye, adido ti wande do di yo. Doa ya, mi a do son li be, du kwa ye le ni e fio, keye o so do adido di adi. Eye ame o so fiwa, o bendekbe te non jo, a yate non po, di te non jo, yola moun enebe, adido tia. Dopo mian oblobe, eze kontobe, du kwa ye le ni soso gloso, ke le jan hlonan, nenebe di doutwa. Ne mian de gome kloya, soso gloso nyak pa evitu kune voa, no le akouran la po viam. Du kwa trou soso gloso, Et mimia, et zouto. Tout trois chans le soudan en enebe dit doudoua. Et il y a deux décibés. Les nounous, les nouyok patamea. Dit doudoua kodo, communauté internationale la ova dobe, waou yo, popose. Popose mi bagbonabe, dialogue. Ni togo togbe se dialogue be nyakboa. Ni ma blemio. Alo mi ma blemio. A messi amea, et djenada roi kloé. A messi en gonlame o, nketo dialogo, popose, doa, o popose, blave voa ton le togo benya yamea, dekpekpe mdo, eta, e de chukwa to le fupekpe meyon. Le yamea, ogba yon nenebe, popose ya, e akweto Jean-Pierre Fabre, akweto Chikpi Achadam, akwe non, Achamabo Johnson, ove kodo France Bani Bandi, yo dogo, Guinée, mes présidents, Alpha Condé.
eyamea opun pokede mi npo nyan pokopo tututu vone mi ya jamme vine mi panko le kino lo jodwa eze kotobe tikpi achadamo akwe no achrangbo johnsono akwe to jean-pierre fabro wakpa to noju ele mi apono no metata o me o de photo o noju o lu gbobe yo ma doju kwasi gbere o yo msogbe la doju kwasi o nyano biom nyare kwese be le nono me yamiare fifi son a me o ni jume vi ni ni jume vi ade le ke api nono me la nodo nou ke ma wo a do alo a me o le dialogo a do ale lide politiku wo le ke ma do alo do ke a zon ade e nou ke to sosyete civil ade jume vi le kepe la do a bo gana ne nebe sosyete civil a jume vi gbalo be ha soso me do la do a bo gana o ne nyan nabe wame la wo do a son mi pati politiku la weo e nou enou amyan gwa pobe, le kinwa le zen ya, mi ma note kwa pati politik de pekwe ou, jume vi de pekwe, togo vi de pekwe, la nan blombe, bololwa, nou la re bololoji. Totrobe, vovo, alo, totrobe jesi, ke le dou la menami ya, mdou la chiyo. E zo, ke le bien la menami, sou kaka weti ton kwe divo ya, nou vino ou, Mdula chiyo. Nimi aso yeji ya. Nimi po Zimbabwe ya. Mugabe. Eno azikpe adi klo sikbe ya di makinene. Vwe nou nwan keva jo. So jawo nto keye va le klicha. Yo tonebe. Amegan. E sunenya. Odula sanji. Apo demisyon odula nata. Ebe asi kanvili vwa. Ke so jawo e glonya. So jawo nyame nan yu chan chume vik balo yu nye. Eno nwan. Akoto Mugabe bana te. Bode nou keye Zimbabwe ou le namion. Bode nou kole na juko. Bode nou kole na soja ou. Batale Afrika godo kaka so kolo togo ou. Bode nou kole na akoto fonya singbe ou. Nyagon klorebe. Eze koto be. Bode nou an ekan. Togo be soja ou. Doa wachon la te wadou an fa. Nou ojia. Bode nou wachon le na akoto fonya singbe ou banyabe nan. Nui obi anwa zikwa di klololo wa, e nyawa e ekpava ivola, kike koni akpa tangba le lon nyawa. Azon no vino wu, nyano gbobi, le kenwa le idea, nime nya fete fete o la ido akpa reka. Ga popone ni o luso, le kosira mena togo, duwa mi akpa ta minye togo wa, egble. Ga popone ni, yo luso, obi ya wadona togo no vino wu. Demila nani, Ah, olivi le vidéo a me ou la voantia. Alors, demi la glombe, mni togo vi. Odi a pa honkane togo, mdou la wafoumi togo la inkoa. E nya waye mi nan bio, mi anu kwe kasiya kame. Nino nan tame nami be, klou vi keye ntom le tchapagba, be ya deye be koso koso wa. A kwe to ke le do game an. Ma kounzi sin ek pedi ou. Bukina faso to, Thomas Sankara yon mende fane ibro anya wan. E be wo klou vi wande. O le kadoye, he lo lak basa. En tia, mi agrobe, du ko ke tina te ho, blona nyare ka, kwen kwen meno neti so wakwa kose sende. Mi dwa le lona togo, jwa kbata, o de so fionbe du ko de ka, yo yo ni. Novyo, avwan kwa fo, imi blona be, avwan le te. Nye mi tanvide, ne mi akho mnye be, ame kwekwea. Akpe nan nye be mi le mi abole radio avwan le te di.
Togo mio mi titelo Togo mio mi titelo E nu ke emile oya Mi ame viola vadui somme E to ke emile oya de Mi ame vionci mile vero Mi titelo A me ke we mou le se gome wa Tant pis pou eux A me ke we gbe yo ma se gome wa de Tant pis pou eux Togo mio mi titelo Togo mio mi titelo
Nyon, miawe le do tomi le radio a vole te di, miabe a me kipe egbe toa. Ile ni ya kweto eloa kusawo. Eloa kusawo e ni a menkuta gande kana haso soko danko le dibe mouvement du 5 octobre. Mouvement du 5 octobre a wawe wavukede be vovo du nyangwa blon ne bava togo. Nya do akpene a kweto eloa kusawo mi le kameku mi le ka Belgique be anibandji. A kweto eloa kusawo mi hosebo o fonyoli e o chan o le kwa togo be nyawo ni swami dongo le Bruxelles o le gbolo lwami. Iye weti ton, kodi voya gbolo lwa le gbolo lodi, amoku, amojafoku, hele hele, le tego, togo vyo me. Iye mi le biyo sebe, gemme nwa la va vo. A konta kemi la ti wo, so weti tonbe gbolo lwa ya nti odwa jume vyo, o ino te kwa toto la, akweto elwa kusa wo.
Apeto Amos, mdakpeno, odo, agbabako le jero togo ba vun ya, nti ya. Emle dogbene radio avunete beto di noto keke kengbe mado enya ntina wa made kuku no be jeremia do nku ame yunu gbe o beto go ba vun yata moko so ba gbe so savore togo be nyonyo ntia nya do nku waji ne mi abio atawo no abe ne daoro fafape bato asi edijine ame yunu gbe obe pome o kwata ne gbololo ya la nandea ela so mi adumevio kwata gbo dumevio ko le jo ame ku dumevio ko le pedia ela so mi kwata mi agbo mi abe kutri kuku alo mi abe veve dodo avuyantia yela nabe bololo ya dola nande gome sese dola no bololo ya nti le gome sese la no bololo ya nti ya ye nyibe miyabe te chichi do durudu jirudu ke le togwa benyi pe blaton soto nti we ya mima didi alo reteo mi do la we do debe ame ko so aba gbe o savoro togwata wabe vosa ngba ninu gbalopo mi do la hlon hlon e mi apo sigbere ke mi anu vi o wele Tunisie nene sigbe Egypt nene alo mi agbon ko ase Burkina kele mi agbo anene mi be ne mi le gbon nene a mi bu mo be Manda banko le miyabe jwa mea. Otovo alo lodo deke emu nyi sigbe deke juko omi yo nene o. Voa minya yemi jwe jesibe. Jirudu ade kwekpe. Benu sen muuna juko anto. Bololo a edo la nande kwe. Wane la nande a. Ela so nyaba vwa bolo. So yeji a. Nemi la wakonta so so wetriton. Be bololo ya mea. Ma gbolon po epo be azon li lenko. E dole mi adi mi awo. E dole mi adi mi awo e nyi be akonta mi ma gbolon be azon li gbalo be nyi mi zon. Fwa mi ma gbolon chan be fie mi wè sen wabe son. E dobe nyi mi la wò kakakaka son na be begbe nou ke jukwa le dia ne kan jukwa si vwa. Ye kengwe Milana alotelo.
Tututu ahoto elwa kusawo enya omeko. Woti ton kodi voba konta. Mi mate glombe avwa evo. Imi mbuna gasya gambe avule tela. Avwa eleji. Eye leko bagbuna do zande ya. Mi mate glombe chambe. Woti ton ba avu. Bonolo ke togo vyo gba wo. Atra li toe. Kan li toa. Enyino balo. Lenya yame ahoto elwa kusawo. Nimi gbe le kakakakakak kwa. Nimi la vwa divo kwa. O la gblo mi e pou nupo la. Mi o popose. E mi gblo ame dialog. Ni togo vyo se dialog be nyan wane nyan. Amiro wa e di hon anon. Amiro bina di. Nimi a gblo le franse gbe amiro nwa traumatize bo o. Nke to dialog o. Mi wo blave vwa tombe dialog e mounan ne kwekwe ntore. E ya kweto Jean-Pierre Fab, tikwi a Chadam, a kwenon, Brigitte Ajmabo Johnson, oi France Banimadi, oi Paris, o Dogo, président guinéen, Alpha Condé, o bo an, wapon pouk bobe leke, milabwa poupou si adoma, a mega ho de konyi la vuyame. Mkouk bon nou, kosok bo, nenebe wonon, leke bele dulo akbo, le kouk wedo.
Nyaweni, lenkeke yo me a ada fole bajine dialogue alo agblan seme bazon lido do merodola so Paris France nigmandi nenebe yoyoa eleso afito Alpha Condé kelenyi ginebe ejutan nola yegbalenyi Afrika jukon fofo be habobogan kemi yona be Union Africaine ele nyebe tato yo opposition togo opposition be tato alo ne magblan kwa togo be duna hagbon blon de ko titero jirudu alo ko panko jirudu ko ligné intercesse me dit doudou le Togo soupe blaton sigereke blazande ya nene be on eva paria ne ya ko be ko wa da fo le badine aglan se bebe dodoma nyawe nene be azonlia ele do vovona medio vovon ke le dora moa yeni be okpo be mu tutugban ya zon li nene to a le do meroda le togo on e ma gbe po a e wu blave a zon li won tongbe nene e wu nene ye vwa nou do hwi nek pe mu tole o keke me o e mu do hwi nek pe mu tole me o a ye na be ke yi agba le do meroda a von von enyi le jame o di ni ma blemi wa ni ntotan le fiya ni nso kakane di gane pe ne nene be agbla se mi won ku e dirudu kele togo do abe ni dandu wa no pa fo clear odo la voni nyawe afito tipi atadam Jean-Pierre Fabre ape no Brigitte Ajamagbo Johnson Ole, y France ni bandi, do Goku, Alpha Condé, do nenebe nyanti de kea wedo e agblen aseme, ne togoa bakbo de dema. Wa, miak bakble be, le nyoye toa mea, le dure pekpe me, ke e vle vle le, alo tukara lea, agblen aseme be nyakbo enina, ne mi gbawo kafla, Baba nyibe etu oda kakakaketa ovana na nyiblone voa nyagble banyi nyawo toto ne nyabe dukwambere enu emikpo le gododo kudo diduduwa gbo so kaka epe blave voa dembe nu abo agble a segome ale be nyina doku diduduwa ye nabe kakane jimle miasine Le neba zon liyo. Mindo la do, fufulugban do ta ne, dukon. Fufulugban do ta, ne dukon alo nwa ba do vaze siye, ke se monene ya, mou nyon. Nyak blombe, e dukon, be nkou do la note, dukon be nkou le te. Le, ame oyi, nenebe godo do o di keke, ne, be nyibo va doye, be ya dogo kudo dirudu aya wa nyabere e more jimi zon san kakakakakaka deke mwa yido a wakwe nuko to le mea vwa mi akple kudo kakane jibe e dirudu abe gododo kebe wana ku opposition alo duha duna ragblok blanko panko dirudu a nowe kakakaka vide vidu alo sodu ya de kento ntura lemo dokpo va donakpo atame na mo atu afo eme no gbabe yo lon cha osan inu a enu ba zena pobe o wo pobe aso hogame ne o gbe ble amoren ti kaka o gbe dasi agbale ate san inu okwa enu bu po va to na le me pa mi ajo no e wa di klololololo ne ne apo a ni ajo bonu po bere dan kan ku me a anu du mi le te pere kacha ne ne apo a funu nya le wa e mi agboro ne tu kwa bere enu e dare don me ro da wa be dialogue alo agboro nya ku do juko a mu yin bo la se ne ne po a juko a la do alo te do anu ke va to na le nu a me wa ola be ah yo da we ola wo de ke la wo ababo su so de ke la pa ko de ve nya go ola wo de ke ro be ntia ken be nu ola to dia fa fa ro la no jo a me bololo ko le a bo da lo le bololo nti wa no te ken go e wa enu ke ye mi da nya nyi bere ne e jiru du ke le jibe fa fa ne va jume ne jume vi wa a fo de o de na o ma be le jibe fa fa ne va vo kwa Yano le dume vido kunu kunu tao. E nyano dokwa tamene dume vio. Ame obe jenao atwa fweme. Vabe yole jibe yu apompo ne nuone nyo. Ne nuo la nyo e sona e ju blo la go. La kuku e doje sibere. Ah, e jua e gban wan. E jua dua gban. E jua e wan le feme. Wan tok pwe doje si le conférence nationale dunya blon e dunya do la gan de carré le so epete me ye le blogan me be juadu agba ye nyi be ne juadu agba afode o dena wa po be de ke nu la yido ye nu la nyole jume ne jume vi o ma voa ne ne ba foa mu le to le e du e du tan no la ogbo ye le do fofona mi Vwa mi akwa kpochanbe, e nou yon le glombe dialoga, mba nyi be opposition, ba be ye le von be, ah, ne yon moun lwa, ola be ya, yon moun le di fafane to gojo, kweto, e nou ko jo, so to re gojo do ko, na nyi va ikaka se, bla ve vwa den on, me on nene ya, yon la de do go, asof tonbe de, oh, l'Afrika juko on ekpo, be keka vere, e juka ek ba kpoto le, sikbe to go ba fwa di ma, e le ve vere, mi mba ngolombe vere, a fun wo mi le amoku amobe hun kora yin gba wa do togo abe nyonyota fa ne mi npopo nyonyone togo voye ba tobe nu ala ba trozo sigbe fufuru gba doro tana menene ya e ya ma jeje o e juko be nkule hunhun sigbere ke mi gbonele mouvement patriotique du 5 octobre MO5 kebe ha kebe ta e mulea nene ya be nkule hunhun ne juko le pore ke enu ole yidwa entia alo ama didibe nya gbonbe ah Oja pompo vokwa, enti amya bonu olo. Mingba bojole, avu ya meo, avu lete, akpe.
Fufu elwa kusa o, akpe manya, blode emila adono, do nume kukuko wadami do togo banya anchi. Sibilu kumplea, avu alete, itogo vyo de so fiona. Novino omidu alote na amya be, wana egbe tua. Kemi dankono jibe alo, kemi antomi dankono jibe, enchua, bigbe. Ne gbe ala no jua siya, jukua ye lana. Jukua meka wanyi jukua, ewo jume vi, ye wana ju. Ne jude la agblia, ela sogbo. Ne e jude la nyua, ela sogbo. Uwe tila me toku jivwa oya, enu mayema yonjo. Eye, e zone le bi. Totrobe zone le bi le togo vyo me. Pia biya kemi biyona, alumina biyo togo vi de siya denye be. Ga popo nene o le zan, Le togun ti le wole be vive ya meyon. Nye mfono, mi ina tome, e vila sinye, alu mwaya mwaya, nye mati mdo game wa, e defu. Mi anon vi, Rodrigue Pogli, le Swiss bandi bandi egon abe, an, ameyo nye esklav, alo kulvire, keyebe mdo game yon. Kulvire mdo game kwa gbele yo. Vwa, kulvire mdo game kule, ne la o dole la dunude, Edu game ne waya. Wa kluvi wa mdo game. Ne yento ye ya odori ye maga wani kluvi wa mdo game ne yon. Ne kluvi wa le zangbe wa. Ne nyak pobe. Kluvi ya ki niya elanyi lobo. Ke yehwe yebe akwe toa kpe la kwatona otona. E gome kponyebe. Ne mi lekmobe game mlinyasi. Kame mlinyasi miya otona me jowa. E defu. no vi no mi ma pon po subo. Totro, bezo kele bide togo vio mea. Ye kone ya mea. E la ido togo vi kele sebi ya menkwa. Ne amele la mena mia, nya kunzizine mia me denig mabe, elekman. Mi ma troa de yo. No vio, mi mou la gashia kamebe, du kwa ke china te kwa gula manye reka, bek mame le nona isi, so wakwa kwa se sere, ke lo chou. E nonwa mi se gomebe, du kwa, bek mame le isi lo. Mi dwa lo terek bebe wana, mi ak pa tonon, mi ak bo, le radio a vole te di, koko le te tenta. No vio, otra boko, e ya ta, ba me ta papo rino togo vile si ale di. Nyano jolo, a vole te.
Radio a vole te. L'esprit patriotique.
Soso glosozando, elole. Soso glosozando, elole. A big battle, one of them alone. Soso glosomibia, elosalado. Soso glosomibia, elosalado.
Shit.